Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. 10 ans après la révolution tunisienne, la première, celle qui a donné le coup d'envoi des printemps arabes, journée spéciale sur France Culture. De la Syrie au Liban, en passant par le Caire et Tunis, quelles traces restent-ils de ces soulèvements populaires, de cette contestation par la rue? Ils ont collecté des slogans, des mots et des images. Avec nous à partir de 12h55, la graphiste Sana Yazighi et le politologue Ziad Majed. Mais d'abord, c'est bien le pouvoir des mots et celui des récits qui est au cœur de la nuit des orateurs chez Gallimard, du poète et romancier Eddy Kadour, notre premier invité. Il enseigne par ailleurs à l'ENS Lyon, à l'École des métiers de l'information de Paris et anime des ateliers d'écriture à l'ANRF chez son éditeur Gallimard. Un roman choral dans la Rome antique sous le règne de Domitien qui parle du pouvoir d'un tyran et du vent de révolte qui souffle parmi certains notables, des jeux de mots et des jeux de pouvoir, tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Cool. À la rencontre de Tacite, sénateur romain sous Vespasien, puis questeur sous Titus, puis préteur sous Domitien, une plongée au cœur du pouvoir tyrannique mais populaire de ce dernier empereur pendant 15 ans. Un nouvel Auguste, despote éclairé, qui pense pouvoir guider Rome vers un nouvel âge d'or. Le temps d'une nuit tragique. Que peut-il arriver? L'histoire peut-elle changer de sens? Bonjour à vous, Eddy Kadour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Après Waltenberg, Savoir-vivre, Les Prépondérants, vous signez à nouveau un roman historique, mais fini le XXe siècle. Bonjour, la Rome antique. Vous n'étiez jamais remonté aussi loin. Pourquoi?
Parce que j'avais, en relisant la correspondance de Pline, dans une nouvelle édition qui venait de paraître, je suis tombé sur ce qu'on pourrait appeler l'affaire Massa ou l'affaire Sénéchio. Et ça avait tous les ingrédients d'une bonne histoire. Et donc c'est un peu ce qui m'a donné envie d'écrire un récit à partir de ça.
Et alors c'est quoi l'affaire Massa?
L'affaire Massa, c'est l'affaire sous le règne de Domitien, donc à la fin du 1er siècle, en 93. C'est un ami de Domitien qui est gouverneur de la province de Bétique. En gros, ça correspond à l'actuelle Andalousie, hein, puis ça va jusqu'au détroit de Gibraltar, qui est un prévaricateur. Alors tous les gouverneurs se payaient un peu sur la bête, mais lui était vraiment un prévaricateur de premier choix. Et la province décide, parce qu'ils n'en peuvent plus, de porter plainte contre lui. Et donc les plaintes se soutiennent devant le Sénat. Et il est condamné. Il est condamné, bien qu'ami de l'empereur, il est condamné en première instance. Et au fond, ça pourrait s'arrêter là. Mais ça ne suffit pas en général. Et les gens qui ont plaidé le dossier, en particulier un sénateur avocat, Sénéchio, décide de porter l'affaire en deuxième lecture, quoi, pour exiger les dommages et intérêts. Et à ce moment-là, Sénéchio en particulier veut exiger des dommages et intérêts. À ce moment-là, Pline et puis d'autres lui disent « Attention, bon, il a été condamné, mais maintenant ça suffit parce que les dommages et intérêts, ce sont ses biens, mais ses biens sont aussi ceux de l'empereur, et cet empereur, c'est un empereur qui tue. » Donc, et Sénéchio finit par céder, par renoncer à cette plainte. Et puis, après avoir cédé, au bout de quelques temps, il écrit un petit bouquin, un petit livre, qui est un éloge d'un personnage, Herennius, qui avait été condamné par Vespasien, donc le père de Domitien. Et là, ça devient une histoire encore plus grosse, parce que Domitien va pouvoir se servir de ça en disant « Bon, tant qu'il s'agissait de moi, ça pouvait aller, mais là, il s'agit quand même de mon père, pas question d'admettre ce genre de choses. » Et donc, Sénéchio est à ce moment-là réellement menacé, quoi. Mmh. Et c'est un peu ce que raconte le roman, c'est-à-dire cette nuit au cours de laquelle les décisions sont prises et où les destins se bouclent.
Voilà, il y a plusieurs acteurs hein, donc, à ce procès, et on comprend ce qu'il aurait reproché hein, aux trois sénateurs, aux camarades Pline, Publius et Sénéchio, qui vont ensemble plaider aussi contre Massa. Ce qu'il aurait reproché et ce qu'il risque, qu'est-ce qu'il risque?
Ce qu'on risque, c'est une accusation C'est un système très particulier à Rome. Il n'y a pas de ministère public. Donc, il n'y a pas d'instance particulière pour soutenir l'accusation. D'où un métier particulier à Rome, qui est celui du délateur. C'est celui qui est chargé de porter les affaires devant devant le Sénat. Et donc, on a là un délateur, Régulus, qui, à la demande de discrète de Domitien, prend en charge cette accusation. Et
les délateurs sont en fait les ancêtres des procureurs.
C'est ça. Comme il n'y avait pas de procureurs, pour porter les affaires, c'était les délateurs qui se. Et le délateur, contrairement au procureur aujourd'hui, enfin semble-t-il, se payait sur la bête, c'est-à-dire qu'ils avaient une partie des biens confisqués.
Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on risque du coup?
Avec la lex majestatis, une accusation d'atteinte à la majesté du pouvoir impérial, c'est la mort. Hein.
Voilà,
ça ne plaisante pas.
Et alors, ce qu'on va bien comprendre à travers Oline, à travers ce roman, c'est que dans ce monde-là et à cette époque-là déjà, il y a des mots qui tuent et il y a des mots qui sauvent. J'en reviens à ce choix, le vôtre, celui du romancier, de retourner à travers cette nuit des orateurs à la Rome antique. C'est une audace pour le romancier. Est-ce que vous diriez qu'après 4 romans, le poète que vous êtes et que vous étiez jusqu'à l'écriture...
On n'est
pas ad vitam aeternam.
Mes derniers recueils, mes derniers recueils de vers, c'est toujours la même chose. On me dit poète et romancier, alors que ça fait maintenant plus de 30 ans que j'écris plus de poèmes.
Et du coup, vous n'êtes plus poète.
Non, plus du tout. Enfin, je continue à avoir une conception de l'écriture qui est une conception très, 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 très exigeante, hein, mais je suis pas. J'ai cessé d'être poète il y a 30 ans.
Enfin, pourquoi? Parce que vous êtes romancier à part.
Parce que je suis passé au roman. Ouais. Parce que je suis passé au roman. Du jour au lendemain, j'ai décidé, après une promenade comme ça dans les rues de Paris, au retour, j'avais décidé que j'écrirais un roman et pendant 7 ans, j'ai plus rien écrit et ça a été Waltenberg. Et ensuite, il y a eu à peu près un roman tous les 5 ans. Oui.
D'accord, mais on ne peut pas être les deux à la fois. C'est pas complémentaire.
Je ne sais pas.
Pas vous, visiblement.
Non, parce que je me satisfais largement de la prose maintenant.
Et la poésie ne vous manque pas?
Non, j'en lis toujours beaucoup. J'en lis toujours beaucoup, mais non, ça...
Aujourd'hui, vous avez le sentiment, Eddy Kaddour, qu'après toutes ces années de poésie et maintenant ces années de prose, comme vous l'évoquez, vous pouvez aller comme écrivain où bon vous semble.
C'est-à-dire que ce qui me guide, c'est encore une fois, c'est la bonne histoire. Voilà. Quand je tombe sur quelque chose dont on peut se dire à la fois c'est pas possible et ça s'invente pas, c'est deux choses, on est à peu près sûr d'avoir. De quoi faire un récit. Après, il va falloir s'y mettre pour de bon et l'écrire. Mais voilà. Et quand j'ai trouvé ça dans la correspondance de Pline et puis dans les histoires de Tacite, il y avait là les éléments d'une bonne histoire avec suffisamment de petits éléments, suffisamment de blanc aussi pour pouvoir faire
pour faire roman
à l'intérieur. Oui.
Est-ce que ça s'est vraiment passé?
Ça s'est vraiment passé. Oui. L'affaire Senecchio est c'est renseigné, comme disent les historiens. C'est on l'a dans la correspondance de Pline et des traces aussi dans les histoires de Tacite.
Alors, il y a deux éléments importants, la temporalité et le lieu. Sur l'importance du lieu, je vous propose d'écouter les mots de l'historien Patrick Boucheron.
Il y a des lieux pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pour se délivrer d'un savoir trop abstrait parce que purement livresque, justement, il faut y aller voir, il faut se coltiner avec cette matérialité un peu têtue, par exemple d'une ville, et simplement pour pouvoir comprendre, à Rome, c'est merveilleux, que ça a eu lieu, mais le lieu, c'est concret, on peut y aller, voilà, et d'où d'ailleurs ce rapport entre une enquête, une énigme, et puis, donc une narrativité, une forme de narrativité, un suspense, et puis aussi ouvrir des possibles. Mais les deux sont liés par le lieu, si j'ose dire.
Et vous, Eddy Kaddour?
Oui, j'ai un grand plan de Rome sur ma table. Hein,
C'est ça, on connaît chez vous l'importance quand même d'aller voir, de prendre des notes sur vos cartes.
Un plan de Rome qui fait qu'effectivement, l'itinéraire par exemple du personnage Lucrezia qui descend du Viminal jusqu'au Forum.
Très beau personnage de femme.
En passant par le Vicus Palatinus, etc. Là, je l'ai effectivement, j'ai tout l'itinéraire.
Donc où est-ce que vous êtes allé voir ? Sur une carte de Rome.
Sur une carte de Rome, puis je connais un peu Rome également. Donc, et le centre de Rome n'a pas trop bougé, je veux dire, ils ont encore gardé, les rues sont tellement petites et intriquées que c'est quasiment encore la géographie de la Rome de l'époque, hein, pour le centre historique de Rome.
Et vous êtes aussi allé voir dans des tribunaux, vous êtes aussi allé voir dans des concours d'éloquence, vous êtes allé voir comment on plaide.
Non, parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Hein. Ce qu'on a, c'est la façon dont on pouvait se passer effectivement des procès, des plaidoiries à Rome. Ça, c'est on a un certain nombre de témoignages. Hein. Il y avait pas de palais de justice à signer. Les choses pouvaient se passer pour les plaidoiries essentiellement dans les deux grandes basiliques qui sont de part et d'autre du forum. En particulier celle qui est à gauche quand on va vers le temple de César, la basilica Iulia, où là se font un grand nombre de plaidoiries à l'époque. Oui.
Avec cette histoire, vous dites que vous avez trouvé la bonne histoire. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette histoire-là nous éclaire encore ? Est-ce qu'elle se suffit à elle-même ?
Oui, je méfie des anachronismes. Hein. Je me méfie des anachronismes. C'est vrai que notre époque est aussi riche en exercices tyranniques du pouvoir, mais on gagne toujours à rester dans la précision du domaine qu'on a choisi. Si les gens ensuite veulent faire des rapprochements, le libre à eux, mais c'est pas comme ça que j'envisage le métier, quoi.
Cette nuit est folle et s'assombrit sous les nuages de plus en plus nombreux. Domitien n'a pas encore pris sa décision et tout le monde en profite pour jouer son propre jeu, forcer de la main de l'empereur, forcer le destin. Il y a donc un destin qui se joue là, on est à un moment de bascule.
Sur la fin de l'Empire, on est effectivement à quelque chose qui va, parce qu'il va y avoir Domitien et puis ensuite Nerva et Trajan. Donc on va quitter une ère, on va entrer dans l'ère de deux grands empereurs après Domitien, hein, c'est-à-dire Nerva, dont le règne va durer très peu de temps, et ensuite le grand règne de Trajan, qui sera un des grands règnes de l'Empire romain. Au fond, il y a une continuité en même temps, hein, depuis Auguste. Domitien, il y a deux choses sous le règne de Domitien. Il y a ce qu'en ont écrit Tacite et Pline le Jeune, qui en ont dit pique-pendre, alors qu'ils ont fait, sous Domitien, de très grandes carrières. Ce sont deux personnages qui ont fait... Pline le Jeune, par exemple, il faudrait imaginer pour aujourd'hui, pour savoir ce qu'était Pline le Jeune à l'époque, il faudrait imaginer aujourd'hui un Bernard Arnault qui serait en même temps régent de la Banque de France, trésorier payeur général et ministre des Finances. Vous voyez, il a la main sur l'aerarium militare et l'aerarium civile, c'est-à-dire les deux grandes caisses de paiement de l'Empire. Quant à Pline, quant à Tacite, il a également, il siège, il n'y a pas de conseil à proprement parler, mais il est souvent à la table de Domitien, et il est chargé à l'époque du recensement de la Gaule. C'est pas simplement compter des têtes, hein, c'est des évaluations de fortune domaniale, de municipalité, etc. C'est une tâche extrêmement importante. Et il finira d'ailleurs, Tacite finira sa carrière comme gouverneur de la province d'Asie, c'est-à-dire au fond de tout l'est du bassin méditerranéen à l'époque. Ce sont donc deux très grands personnages qui ont dit pique-pendre du patron, mais qui ont fait sous son autorité de très grandes carrières.
On retrouve quand même dans ce livre, La Nuit des Orateurs, l'arrogance hein, des puissants qui était déjà présente dans Les Prépondérants, ce roman historique, Le Vôtre dans le Maghreb des années 20, paru il y a 5 ans. Parce que c'est aussi un livre quand même sur l'art oratoire, hein, sur la littérature, sur la force des mots, on le disait. À quoi on reconnaît un pouvoir tyrannique
sur l'art oratoire, il faut bien voir que, justement, cette époque-là, c'est la fin de l'art oratoire.
Oui. C'est-à-dire mais ça n'est encore un peu l'âge d'or.
Ça ne compte quasiment plus. C'est-à-dire que Cicéron, les rostres, les grandes plaidoiries, le discours qui fait basculer Catilina dans la délinquance et la fuite, ils savent que c'est fini. que la parole ne crée plus le pouvoir, en quelque sorte, hein, que le pouvoir est ailleurs. Mais il continue quand même, et on voit comment chez Tacite ça s'est passé, c'est-à-dire que il est passé au fond, il a eu cette formation pour devenir orateur, effectivement, mais il est passé à l'écriture. Et Pline, c'est la même chose. Donc l'écriture a pris au fond la succession de la parole qui n'était plus maîtresse du pouvoir.
Fin de l'art oratoire, début de la littérature.
Peut-être, oui.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord.
Non, parce que je crois que la littérature à
c'est
Rome,
autre chose.
Son vrai lieu d'incubation, ce sont les lectures. C'est-à-dire que les Romains ont la passion de la lecture publique, c'est-à-dire faite à un cercle d'amis. Et tous les grands personnages à Rome ont une pièce dans leur villa qui est, au fond, réservée à la lecture. Elle peut accueillir 40 à 60 personnes avec des sièges et puis un lutrin. Et c'est là que se donnent, au fond, les œuvres en cours. C'est là qu'on fait la lecture. Le Satyricon, par exemple, sera lu en fragments devant... et vous avez des personnages qui ont des salles de lecture qui sont très renommées. Titinius Capito, par exemple, qui est le patron du courrier impérial, c'est-à-dire au fond, il a la main sur toutes les communications de l'Empire, a une salle de lecture qui est très renommée. Quand on écrit un livre, le premier souhait, c'est d'être lu chez Capito.
Demain, nous serons morts sans être vraiment coupables, comme dans une vraie tragédie. Est-ce que notre mort servira à purger les âmes craintives? Quelle a été notre amartia, notre petite faute? On dit que c'est la démesure qui fait commettre les petites fautes. Est-ce par démesure que nous sommes les amis de Pline et que Pline a voulu défendre la bêtise contre un prévaricateur? C'est cela la tyrannie, quand les actes honorables d'un citoyen romain deviennent comme autant de petites fautes de tragédie. Une fois encore, quelle est votre définition de la tyrannie? Quels sont les maîtres mots de cette tyrannie qui se joue?
Bon, c'est tout ce qui fait obstacle, au fond, à la liberté des gens. Et là, en l'occurrence, à Rome, le seul personnage qui est censé être libre, c'est le citoyen. C'est Civis Romanus Sum. Et Domitien fait obstacle à cela.
France Culture, avec notre invité Eddy Kaidwour, à l'occasion de la parution de son roman La Nuit des Orateurs, c'est chez Gallimard.
Culture. La grande table. Olivia Jesper.
Basaka de musique, c'est amusement. Basaka de musique, c'est médicament. Basaka de musique, c'est ensemble. Calmez vos tempêtes, calmez mauvais têtes. Basaka de musique, c'est pas bagaille la fête. Basaka de musique, café, pep, joint. Basaka de musique, café, moun sanglé. Musique fonda cette tradition, musique mystique. Songez ça. Songez ça. Oh, songez ça. Songez ça. Changer en la vie, pas ça des musique peut changer un pays, pas ça des musique peut changer les esprits. Music for freedom, music is the weapon. Toute maintenant moi dois décider ça qui chemin la vie. Et qui j'en ai des mouns qui pas comprendre son principe la vie. Donc bois dans bois s'il faut, bye bois nous que bye ça qu'il faut. Et c'est seule manière pour faire pour y'a tombé blogodo. 6 million ways to die, choose one. The 6 million ways to live, choose one too. Nous peut que rester là assis attendant ce qui pas qu'à venir. Et puis rester dans l'oubli, non mais sinon. Tell them, nous bye bye yo. Yo poisonné nous, ha, demain c'est à nous. Ensemble nous que nous bout, y'en est pilote. Pour nous faisons, music for freedom. Music is the weapon. Music for freedom. Music is the weapon. Music for freedom. Songez ça. Songez ça. Songez ça.
Le titre s'appelle Freedom. Il est extrait du quatrième album Nocturne de David Walters, qui chante ici le pouvoir libérateur de la musique en se réappropriant un slogan universel, celui de Fela Kuti, Music is the weapon. Si tout va bien, David Walters et ses musiciens seront en concert le 11 mars à La Cigale à Paris. En attendant, il y a cet album à paraître donc début février, le 5, Nocturne, tel est son nom. Le pouvoir libérateur de la musique, Édicatour, et le pouvoir libérateur des mots. On l'évoquait aujourd'hui, ce mois-ci, c'est le 10e anniversaire des printemps arabes. Et la Tunisie fut le premier pays à mener sa révolution. Le pays où vous êtes né, d'ailleurs, vous, Édicatour, la Tunisie qui fête donc ce mois-ci la chute de Ben Ali. Est-ce qu'elle vous a inspiré de près ou de loin? J'imagine que la réponse sera non. Mais est-ce que de tout temps vous diriez, et déjà à ce moment-là, lors de cette longue nuit des orateurs, la liberté est une aspiration partagée?
Oui, toujours la même chose, hein, éviter le péché d'anachronisme. Je crois que les Romains n'avaient pas tout à fait la même conception de la liberté que la nôtre, hein. Puisqu'elle s'accommodait de l'esclavage et du statut des affranchis et du statut des pays vaincus. Donc, c'était un système de valeurs radicalement différent.
À quoi aspire-t-on alors, à ce moment-là?
À Rome? À la citoyenneté. À la citoyenneté, ou à ce qui s'en rapproche, parce que c'est ce qui donne... Le droit à l'espace public dans sa plénitude. Les esclaves espèrent un jour être affranchis. Les affranchis espèrent un jour avoir un pouvoir qui leur donne accès non pas à la citoyenneté proprement dite, mais à une circulation et des modes d'existence qui s'en rapprochent. Jusqu'à plus tard sous l'Empire, ce qu'on va appeler l'édit de Caracalla, un empereur qui viendra après, et qui va accorder la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire romain. Donc par une décision de Caracalla, tous les habitants de l'Empire romain deviendront citoyens de l'Empire.
Et pourtant, il y a déjà, à ce moment-là, plusieurs voix qui s'expriment. C'est pour ça qu'une fois encore, vous avez fait, vous, le choix d'un roman choral, pour entendre toutes ces voix.
Oui.
Quelle symphonie vous avez composée, au bout du compte?
Non, il y a un certain nombre de, il y a un nombre restreint de personnages, hein, qui ont droit au monologue intérieur, au fond. Il y a
Pline, il y a Domitien, voilà. Il y a quand même Tacite, Publius, il y a Lucrezia que vous avez évoqué.
Oui.
Parmi les principaux.
Et ensuite, il faut essayer de glisser comme ça de la voix du récit à la voix du personnage, de revenir ensuite dans le récit. De temps en temps, mettre des guillemets parce qu'il faut pas être sectaire non plus. Voilà. Donc c'est un système de voix. Alors ça demande beaucoup au fond d'écriture réécriture. Hein. Il faut lisser en permanence pour avoir à la fois la singularité des voix et la continuité du récit.
Il y a la question de la masse hein, qui se pose aussi, oui. Celle qui peut se soulever, celle qui peut contester. Vous l'écrivez, hein, Eddie Kadour, tout cela en dit long sur l'état des esprits, sur la variété des sentiments qu'on peut éprouver à l'égard d'un tyran. Une variété qui va de la peur haineuse à la haine craintive et fait que la masse d'une assemblée, tant qu'elle ne s'estime pas menacée en bloc, soudée en bloc par la menace, tant que chacun de ses membres peut se dire que la foudre sera pour le voisin, cette masse peut, comme à son habitude, reporter sa réaction ad calendas grecas en laissant dans l'intervalle, et comme on dit, les choses suivre leur cours.
Oui. Oui, oui. C'est au fond, l'Empire a transformé la plèbe en tant qu'acteur politique, présent sur le forum à laquelle on s'adressait, en public du cirque. On est passé du forum au Colisée. On voit que la construction du Colisée est en même temps un acte politique, parce que c'est là que on transforme au fond le peuple en spectateur de jeu.
Et c'est passionnant parce que c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui peut être l'étincelle? Qu'est-ce qui peut être le déclencheur, faire qu'une masse plutôt docile, un groupe, une foule, devienne un groupe, une foule, une masse en révolte?
Oui, on sait pas trop. Au fond, on sait pas trop. Je suis suffisamment âgé maintenant pour avoir connu dans le Quartier Latin deux types d'événements. Le premier, autour des années 1964-65, qui était une lutte contre ce qu'on appelait le plan Fouché, avec en même temps des manifestations très violemment réprimées, mais au cours desquelles la consigne était de ne pas riposter. C'était camarade, pas d'aventure. Et puis en 68, il s'est passé une chose totalement différente. C'est-à-dire que là, les étudiants ne se sont pas laissés faire au départ et ont riposté. C'est ce qui a déclenché l'ensemble des événements.
Et pour les révolutions arabes, c'est aussi une question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Oui, encore que le mot aujourd'hui ne corresponde plus à grand-chose, hein, parce qu'il n'en reste pas grand-chose.
Elles ont été confisquées, ces révolutions.
Je ne sais pas si on veut parler de confiscation. Est-ce que les gens ont perdu la main? Ça fait bien de dire on a confisqué là. Oui, mais d'accord, mais pourquoi tu t'es laissé confisquer, quoi? C'est toujours la même histoire.
C'est un rêve déçu, en tout cas pour l'instant. Une aspiration qui n'a pas trouvé son prolongement dans la plupart des pays, sauf peut-être en Tunisie. Merci beaucoup à vous, Eddie Kadour, d'avoir été avec nous. Les Prépondérants, c'était votre précédent roman. La Nuit des Orateurs, c'est celui-ci. Il vient de paraître chez Gallimard. Merci mille fois d'avoir été notre invité.
Merci.